OK. Oui, là, ça marche. OK. Phew. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche où, rempli de joie, de bénédiction. Une journée spéciale parce que des gens veulent prendre position, montrer... OK? Là, ça marche. Je suis pas bon en technologie. Hein? C'est pour ça que je suis pas à la console et quoi que ce soit. Je disais, c'est une journée spéciale. Hein? OK. C'est correct? Non? OK? Je continue quand même. Journée spéciale. Les gens ont décidé de s'engager, de montrer au monde qui veulent suivre Christ, leur sauveur, parce que Christ est devenu maintenant leur Seigneur. La première que je vais inviter, j'ai appris à la connaître à travers le cours, c'est une personne que je ne connaissais pas, c'est Jessie la Douceur. Jessie va nous expliquer pourquoi elle ne comprenait pas que son chum aimait plus Dieu qu'elle. Alors, à travers son témoignage, elle va nous expliquer ça. Jessie, tu es bienvenue.
Bonjour. Ça fonctionne toujours? Parfait. Alors, comme Robert l'a mentionné, mon nom est Jessie. Je vais essayer de résumer ma vie et ma rencontre avec le Seigneur en 5 minutes. Alors, top chrono, c'est parti. Je ne viens pas d'une famille chrétienne. Au primaire, j'ai suivi un cours de religion catholique. J'ai fait ma première communion et ma confirmation à travers de ce cours. Mais j'avais jamais vraiment compris ce qu'il m'enseignait. Pour moi, cette tradition n'avait pas de sens. J'ai commencé à me poser des questions sur la vie, la mort et ce qui vient après. Je ne trouvais pas de réponses réconfortantes ou logiques dans la religion catholique. Au secondaire et au cégep, j'ai tranquillement délaissé l'idée d'un Dieu. J'étais entourée de gens non-croyants. À ce moment-là, pour répondre à mes questions sur la vie, la mort et ce qui vient après, puis j'ai commencé à croire à l'évolution, à une sorte d'énergie qui vient de la nature, et puis quand on meurt, eh bien, on retourne à la nature, point final. Je me suis contentée de cette théorie pour me réconforter pendant plusieurs années. Mais il y a 5 ans, j'ai rencontré un gars nommé Simon. Il était chrétien, ce qui était nouveau pour moi. Et nous nous sommes fréquentés et nous avons habité ensemble malgré le fait que nous n'étions pas mariés. Je l'aimais, mais il y avait toujours un petit vide inexplicable dans mon cœur. Un vide qui me poussait à être craintive, négative et parfois malheureuse, sans raison particulière. Je voyais Simon lire sa Bible le matin et aller à l'église le dimanche, et ça piquait ma curiosité. Alors, quand il n'était pas à la maison, je prenais sa Bible et je lisais quelques passages. Je suis également venue à quelques événements de l'Église, donc la chorale Jaira et aussi le témoignage de Tony Anthony. Autant que ces choses me touchaient, autant que je les fuyais car j'avais peur d'être hypocrite et d'être rejetée par ma famille et mes amis. C'est stressant. Bonne chance aux autres. OK. Aujourd'hui, quand je regarde à l'arrière, je vois que Dieu m'avait donné plein d'opportunités pour le connaître, mais je les refusais tous. Mais Dieu connaît mon cœur. Il a su comment me convaincre de sa présence. Au mois de février dernier, Dieu a mis une décision dure à prendre dans le cœur à Simon. Simon se sentait malheureux, car il savait que la relation entre nous deux n'était pas dans la volonté de Dieu. Il n'était plus capable de vivre sa vie dans un péché qu'il connaissait et d'aller à l'église en même temps. Alors, Simon a pris la décision de me laisser pour vivre sa vie dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, ma vie a changé à tout jamais. Au début, j'étais vraiment en colère, j'étais super confuse. Je voulais absolument comprendre comment un homme pouvait laisser une femme qu'il aimait pour l'amour de Dieu. Moi, je voulais connaître ce Dieu-là. Alors, j'ai suivi le cours de la foi chrétienne expliqué avec Herman Chatté. Finalement, il y avait des réponses concrètes à mes questions sur la vie, la mort et ce qui vient après. J'ai commencé à avoir un changement dans mon cœur et dans mon comportement. Je me rendais compte que certaines choses qui me faisaient plaisir auparavant me rendaient triste maintenant. Je ne vous confesserai pas tous mes péchés, Dieu les connaît très bien. Mais je peux vous donner un exemple un peu boboche. Je m'entraîne à un gym qui prête des serviettes orange vif. Orange, c'est ma couleur préférée. Il est prêt pour 2$. Alors un jour, je me dis, j'en ai prêté une, puis je vais la ramener à la maison. Bref, je l'ai volée. J'ai même pas payé le 2$. Mais je me dis, c'est pas grave, parce que je paye pour aller au gym de toute façon. J'étais fière de ma serviette, elle était orange. Mais après avoir lu les évangiles, je ne pouvais plus regarder ma belle serviette orange volée. En place d'être fière, j'avais honte de mon péché. Alors j'ai retourné la serviette au gym. Grâce à plein de petites et beaucoup plus grandes exemples de ce genre, je me suis reconnue perdue sans Dieu. Je lui priais en pleurant de me pardonner pour mes péchés et de m'aider à comprendre sa volonté pour ma vie. Un jour, je crois avoir réellement compris le salut et le message de l'Évangile. Mais je veux être sûre que ce n'est pas juste dans ma tête. Je demande à Herman, « Comment est-ce que l'on sait qu'on a reçu le salut et que l'on est sauvé? » Herman me répond, « Est-ce que tu crois et à la fois que Jésus est mort pour toi sur la croix pour payer pour tes péchés? » Je lui réponds, « Oui, mais comment savoir que cela se passe pas seulement dans ma tête? Comment savoir que c'est vraiment dans mon cœur? » Il me répond, en parenthèse, j'ai pas vraiment exactement ce que tu m'as répondu, Herman, mais c'est dans ce genre-là. « C'est dans ton cœur, car tu as changé ton comportement pour vivre hors du péché et pour suivre la volonté de Dieu. Et cela se voit que ça te rend heureuse. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que ce genre de changement de cœur se réalise. » Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais enfant de Dieu. Comme c'est écrit dans 1 Jean 4,15, « Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. » OK! Présentement, je vis ma vie avec Dieu et j'essaie de vivre dans sa volonté. C'est une bataille constante entre ma chair et mon cœur. Mais ce n'est pas toujours facile, mais quand tu penses à tout ce que Jésus a fait pour moi et à tout ce que Dieu nous a donné, je ne peux pas être triste ou négative, car j'ai confiance au plan de Dieu pour moi. Et je l'aime pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Présentement, Simon et moi, nous n'habitons pas ensemble, mais nous sommes fiancés. Je veux terminer par vous dire que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a eu des changements dans ma vie. Je suis plus positive, même si j'ai des larmes aux yeux présentement, c'est pas grave, c'est des bonnes larmes. J'ai moins de crainte, car je m'appuie sur Jésus et j'ai confiance en lui. J'aurai toujours des inquiétudes, mais maintenant j'ai la certitude que Dieu est toujours là pour moi, pour répondre à mes questions. Et j'ai prié que vous trouviez Dieu vous aussi. Merci.
La prochaine, je la connais depuis un peu plus longtemps. Audrey, qui est ma fille, elle va vous dire que c'est pas parce qu'elle est dans une famille chrétienne qu'elle est automatiquement sauvée, qu'elle s'approprie la foi de ses parents. Elle doit faire une décision elle aussi, et c'est ce qu'elle a fait un jour. Excusez un petit peu les émotions, là, mais... C'est une grâce pour des parents de voir les enfants venir à Christ et confier leur vie au Seigneur. Et je peux en témoigner. Alors, Audrey?
Bonjour. Je m'appelle Audrey Saint-Pierre, j'ai 20 ans et je suis ici pour vous partager mon témoignage et ce que Dieu a fait dans ma vie. Comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille chrétienne avec deux parents qui s'aiment et une sœur cadette de 17 ans. Durant mon enfance, j'ai accepté Jésus dans mon cœur à plusieurs reprises. Tout ça parce que j'avais peur d'aller en enfer. À chaque fois que l'occasion se présentait, que j'ai réalisé que j'avais fait énormément de péchés, je demandais pardon à Jésus et je lui demandais de venir dans mon cœur. J'étais ce que je croyais être une bonne chrétienne. J'allais à l'église et à l'école du dimanche à chaque semaine. J'avais beaucoup de copines chrétiennes et j'allais au camp des boulots à chaque été. Puis le temps de rentrer au secondaire est arrivé. J'ai continué à aller à l'église avec mes parents, mais à l'école, j'étais une toute autre personne. Je faisais comme mes amis, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Une idée a commencé à faire son chemin dans mes pensées. Je me disais que si Dieu existait vraiment et que s'il m'aimait vraiment, il allait me le montrer. J'ai continué à faire ce qui me plaisait. Lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit et les bars. Ma vie ne faisait qu'empirer. À l'été 2010, je suis déménagée en appartement, ce qui n'a pas aidé à améliorer les choses. Heureusement pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je suis donc retournée vivre chez mes parents. J'ai continué à mener la vie que je menais, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Un jour, ma mère m'a demandé si je voulais venir à l'église un certain dimanche matin, car il y avait des baptêmes. J'ai dit oui et ce fut la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Il y en a un en particulier qui m'a vraiment touchée. Je me suis reconnue à travers ce que cette personne disait. Dieu m'a vraiment parlé à travers elle. À la fin, je pleurais tellement qu'il a fallu que je sorte de la salle. Par la grâce de Dieu, ma meilleure amie était présente cette journée-là. Elle est venue me retrouver pour qu'on discute. C'est à ce moment que je me suis reconsacrée et que j'ai pris la décision de me faire baptiser. En arrivant chez moi, j'en ai parlé avec mes parents. Mon père m'a conseillé de commencer par suivre le cours de M. Chatté, la foi chrétienne expliquée. C'est en suivant ce cours que j'ai vraiment saisi le sens du verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout devenait de plus en plus clair et ce qui me frappait le plus, c'est à quel point Dieu m'aimait et à quel point j'étais bénie. Je n'avais pas mérité toute cette grâce. Aujourd'hui, je suis ici devant vous pour faire profession de ma foi et pour affirmer que je vis pour Dieu. Depuis que je suis revenue au Seigneur, j'ai vu Dieu opérer d'énormes changements en moi et je n'ai plus l'impression qu'il manque quelque chose dans ma vie et j'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Ce manque est comblé par l'amour que Dieu éprouve pour moi. Pour terminer, le psaume 23,6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Merci.
Merci Seigneur. La troisième personne a réussi à connaître Christ en côtoyant d'autres chrétiens. Il se demandait pourquoi, même s'il y avait des bonnes valeurs dans sa famille, il y avait d'autres choses de différentes dans ces gens qu'il côtoyait. Même si on le connaît un peu moins, Maxime Gladue va se faire connaître à vous et montrer qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Maxime?
C'est bon? Allô tout le monde? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Maxime. J'ai 23 ans. À première vue, si on apprend à me connaître, je suis quelqu'un qui est comique. Je suis un gars qui paraît bien quand même. Attendez. Vous allez voir où je veux en venir.
Audrey pourrait mieux nous le dire si elle est d'accord avec ça.
J'espère qu'elle est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire dans le fond, c'est qu'à première vue, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui paraît pas mal. Je suis d'une famille qui est aisée, j'ai un bon diplôme universitaire, je vis pas de gros drames, donc je pourrais être quelqu'un qui, extérieurement, on dirait qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Mais je peux vous le dire avec mon cœur, vivre dans la grâce de Jésus est une bénédiction qui m'apporte beaucoup plus que n'importe quel autre joie artificielle dans ma vie. Je suis devant vous aujourd'hui pour proclamer ma foi et pour vous rendre un témoignage du cheminement qui m'a conduit ici. J'ai grandi dans une famille de quatre, avec ma mère, mon père puis un frère plus jeune. Les valeurs catholiques ont toujours été relativement bien ancrées du côté de ma mère, mais du côté de mon père, c'était bien différent. Mais par respect pour ma mère, il respectait ça un peu, là. C'est pour ça que j'ai passé à travers première communion, confirmation, etc., comme les enfants catholiques le font, mais sans y accorder beaucoup de signification. Pour faire une histoire vite, moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. J'étais en secondaire 4. Il a fait un arrêt cardiaque un 15 décembre au matin. Ça a pas été facile, puis la dynamique familiale a beaucoup changé. Puis on s'est retrouvé avec un grand vide dans notre famille. Ayant toujours eu une forme de foi, ben suite à ça, j'ai commencé à prier à tous les soirs avant le dodo, mais rien de concret, rien qui impliquait une relation personnelle avec Jésus. Un an plus tard, j'invitais ma voisine de casier au bal des finissants du secondaire. Cette fille-là, c'est la femme avec qui je veux passer ma vie. Elle s'appelle Audrey Hamel, puis elle est assise juste ici. Depuis, ça fait maintenant bientôt 7 ans, ma vie a changé. En arrivant chez la famille Hamel, j'ai été accueilli particulièrement bien et j'ai retrouvé des valeurs et un amour bien spéciaux auxquels je voulais m'identifier. J'ai par la suite été invité au baptême de Geneviève, la sœur aînée d'Audrey, pour constater que les valeurs qu'on prônait dans votre assemblée, qui est maintenant aussi la mienne, étaient des valeurs qui me permettraient d'être heureux. Pour commencer, ma foi s'appuyait surtout sur l'amour que j'avais pour ma nouvelle famille et pour Audrey. Mais, au fur et à mesure que les mois passaient et que je fréquentais l'Église et des frères chrétiens dans d'autres activités, j'ai compris que je voulais moi aussi avoir cette relation si spéciale avec notre Seigneur Jésus. J'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de Jésus dans ma vie, puis que c'était pas juste une question de bien paraître devant qui que ce soit ou une question d'être en règle pour aller au ciel. J'ai reconnu que je devais renoncer à mes propres péchés et de suivre Jésus. Malheureusement, ce désir-là il a mal passé auprès de ma famille à moi, de manière à ce que ma mère a fini par m'interdire de venir fréquenter l'Assemblée pendant quelques temps. Bien entendu, il s'agissait plus d'ignorance que d'autre chose. Elle avait peur que je m'engage dans quelque chose que je connaissais pas. Donc, par la suite, après quelques mois, je suis revenu ici plus allé que jamais parce que j'avais parlé avec ma mère et je lui avais fait comprendre que les valeurs qu'on prônait ici étaient des valeurs que n'importe quelle mère souhaiterait pour son fils puis que j'étais une personne qui était capable de raisonner et de prendre des bonnes décisions. Donc, quelques années plus tard, ben là, je suis devant vous. Je suis heureux de pouvoir dire que j'ai le Seigneur Jésus à mes côtés dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. C'est mon ami, mon confident, mon rocher. Il est le chef d'orchestre de ma vie. Si on tourne dans Psaume 18:3, on peut lire « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel. » Donc, avant de lui laisser une place dans ma vie, j'étais un bon petit gars. J'étais proche des gens que j'aime. Je prenais pas de drogue. J'étais quelqu'un qui était relativement clean. Mais j'étais une personne pour qui bonheur et réussite rimaient avec argent et matériel. J'étais, j'en garde encore des mauvais plis, un enfant roi gâté pourri. Moi, qu'est-ce qui me rendait heureux, c'était d'avoir l'attention, c'était d'être bien vu par les gens puis de considérer l'opinion de tout le monde. J'étais aussi une personne qui était super angoissée puis j'avais toujours peur de qu'est-ce qui pourrait arriver au lendemain. Mais aujourd'hui, ayant donné une place plus importante à Jésus dans mon quotidien, il me transforme continuellement pour le mieux. En 2 Corinthiens 5, On peut lire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est ce que je veux dire par une transformation. Bien entendu, certains de ces péchés refont surface à l'occasion, mais je suis maintenant quelqu'un pour qui les moments en famille, les petites joies, ça représente beaucoup plus que l'argent et le matériel. Je suis aujourd'hui une personne qui grandit en générosité et j'ai avant tout une âme que j'avais pas auparavant. J'ai une force que j'avais pas autrefois. J'ai Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le passage que je lis le plus souvent possible et qui fait en sorte que j'ai pas peur de foncer dans la vie est Matthieu 6, 31-34, que la plupart des gens ici connaissent bien. C'est un passage qui dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je sais aujourd'hui que peu importe les épreuves et les incertitudes, j'ai quelqu'un qui veille à me rendre à bon port. Devant vous aujourd'hui, vous avez quelqu'un d'imparfait. Vous avez quelqu'un qui a des défauts, qui a des choses à mettre au point dans sa vie. Mais si j'attends d'avoir réglé tout ça définitivement, je ne me ferai jamais baptiser. L'important, c'est que maintenant, j'ai la certitude coulée dans le béton que j'aurai Jésus à mes côtés toute ma vie et que mes péchés sont pardonnés grâce à lui. Et aussi, j'ai la certitude que je veux remettre entre ses mains tous les aspects de ma vie. Donc, c'est sur ça que je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage, puis je vous souhaite un bon dimanche tout le monde. Que Dieu vous bénisse.
C'est bon d'entendre ces témoignages, voir l'œuvre que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. Ce matin, on a la plupart des chants qu'on va chanter. Ils ont été choisis par les personnes qui se font baptiser. Tout à l'heure, on a chanté Hosanna. C'était le chant que Jesse avait choisi. Maintenant, on va chanter un chant qui s'appelle Crier à toi, choisi par Maxime. Et ensuite, Entends mon cœur, que Audrey a choisi. C'est tous des beaux chants qui parlent de l'amour qu'on a pour notre Sauveur et comment on veut vivre pour lui maintenant. Alors, j'invite à vous lever. On va les chanter ensemble. Puis, c'est pour la gloire de Dieu.
Si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin.
Viens fort ensemble, entends mon cœur.
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour. Nous prenons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.
Oui, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Et si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. C'est toi qui as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie en sacrifice pour que nous puissions être sauvés et jouir d'une relation avec le Dieu vivant et vrai. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci de ce que tu as fait dans nos vies. Merci de l'amour que tu as placé en nous pour toi. Seigneur, on veut te remercier aussi à travers nos dîmes et nos offrandes que nous voulons remettre pour toi, Seigneur. Et ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, je veux te prier que tu puisses les bénir, qu'elles puissent servir à annoncer cet amour que tu as eu pour nous, aux gens autour de nous et jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Puisses-tu les utiliser pour te faire connaître ton nom et être glorifié dans toutes les nations. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. J'aimerais simplement mentionner que, comme je l'ai dit, on passe au temps des dîmes et des offrandes et je suis conscient que les gens qui nous visitent ce matin, et puis ça, c'est vraiment ce geste-là, on le fait par amour pour notre Dieu, et si vous êtes en visite ce matin, sentez-vous bien à l'aise de laisser passer le sac. C'est un geste que les enfants de Dieu, que les croyants font pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour soutenir le ministère qu'on fait à l'Église, payer les bâtiments, les choses qu'on veut faire, et soyez bien à l'aise de laisser le sac passer. Il n'y a pas de gêne ici. Le prochain chant, ça parle de la grâce infinie que notre Dieu a pour nous. On veut encore une fois chanter son amour.
Quelques minutes dans la parole de Dieu. Je voudrais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yannick Étier. Je suis un des pasteurs ici. Il y a plusieurs pasteurs dans cette assemblée. Robert, qui a préparé les gens pour qui les accompagnait dans la préparation pour le baptême. Alexandre, qui dirigeait la louange. Et moi, je suis un des pasteurs de cette assemblée. J'ai 41 ans. Je suis moi-même devenu chrétien à l'âge de 19 ans. J'ai deux beaux petits-enfants, en fait. Pas mal grand maintenant, hein? 13 et 11 ans, et la belle jeune femme qui chantait juste là avec le chandail fuchsia. C'était Esther, mon épouse. On va se courber ensemble dans un petit mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole est vivante, Seigneur. Nous croyons que c'est toi qui nous l'as donnée, qu'elle est là pour te connaître, Seigneur, pour connaître Dieu, pour connaître son Fils Jésus-Christ et pour nous connaître nous-mêmes aussi, Seigneur. Père, je te prie d'être avec mes mots. Simplement, Seigneur, qu'ils soient clairs, que je puisse communiquer clairement ce que tu nous as fait connaître à travers tes Écritures, Seigneur. Et dans ta grâce, que par ton Esprit, Seigneur, ces paroles soient vie pour quelques personnes ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Je tiens à remercier les gens de la famille qui ont accepté l'invitation et qui sont venus ici. Vous avez pu percevoir un peu à travers les témoignages à quel point c'est un moment important dans la vie d'un chrétien. Et je sais peut-être que vous êtes des observateurs, même vous ne comprenez pas trop cette patente-là. Il s'est passé quelque chose dans la vie de quelqu'un dans votre famille, puis vous dites « Ouh, ils sont devenus vraiment bizarres, un petit peu mystiques ». Simplement vous remercier en leur nom. D'accord? Des fois, on n'a pas les mots pour le dire à notre famille, mais lorsque je me suis fait baptiser, il y a des gens que j'aurais aimé avoir là. Et simplement, même s'ils ne comprenaient pas tout, c'est un moment important pour ma vie, dans ma vie à moi. Alors, je tenais à vous remercier en leur nom. Ce matin, le passage que j'ai décidé de partager avec vous, et je vais prendre une vingtaine de minutes avec vous, on va faire ça brièvement, vient d'un des quatre évangiles, l'évangile de Luc. On a intitulé ça « L'ami des pécheurs ». Vous savez, l'image souvent qu'on a de Jésus, c'est que Jésus est l'ami des... Vous connaissez la vieille expression des grenouilles de bénitier? Connaissez-vous ça? Les grenouilles de bénitier? Non? Peut-être que vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Et on a l'image dans notre esprit que Jésus est l'ami des grenouilles de bénitier. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus n'est certainement pas l'ami des gens très religieux, ancrés dans leur tradition religieuse, s'appuyant sur cette identification avec leur religion comme une sécurité pour leur éternité. Jésus n'est pas ami avec ces gens-là. Jésus est l'ami des pécheurs, et c'était sa réputation. Alors ce matin, je veux vous conduire dans un court passage de l'Évangile selon Luc, dans lequel on voit justement Jésus illustrer cela, qu'il est l'ami des pécheurs. Je vais vous lire ce matin dans la version sommaire, pour ceux qui sont habitués de venir à l'Assemblée ici. Souvent, on lit dans la traduction dite Louis II. Je vais vous lire dans la sommaire, je trouvais qu'elle éclairait beaucoup un verset. Alors, vous allez l'avoir d'affiché à l'avant. Vous pouvez nous suivre si vous n'avez pas une version sommaire avec vous. On est dans Luc, chapitre 7. Je vais lire les versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger. Tout à l'heure, je mettrai un petit peu de lumière là, sur les éléments culturels de l'époque. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux, et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. « Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. » Puis, se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Vas en paix. » Simplement mettre le contexte un petit peu. Simon le pharisien, c'était un pharisien, c'est-à-dire que c'était un juif qui faisait partie d'un sous-groupe, une secte à l'intérieur de la religion juive qui était très, très assidue à appliquer la loi qu'on trouve dans l'Ancien Testament, rigoureusement. Et Jésus les a souvent pris à partie parce que ces gens-là regardaient, comme vous le voyez ici, les gens de haut, parce qu'ils trouvaient, ils pensaient être capables de prouver leur bonté, leur justice, leur droiture par leur rigueur à suivre la loi. Alors que la foi, c'est premièrement une question de cœur devant Dieu, devant un Dieu saint, ces gens-là, par leur pratique religieuse, en venaient à se convaincre eux-mêmes de leur propre justice, de leur propre sainteté. Et Jésus a régulièrement eu des conflits, même ouverts et publics, avec ces gens-là. Ça, c'est Simon le pharisien. Simon veut comprendre qui est Jésus, veut l'examiner, peut-être lui faire passer des tests, et probablement que c'est pour une de ces raisons-là qu'il a invité Jésus chez lui. Maintenant, intervient dans l'histoire cette femme qui avait une vie dissolue, qui était, selon toute probabilité, une prostituée. Elle connaissait déjà Jésus, soit qu'elle avait pu parler avec lui dans d'autres circonstances, soit qu'elle avait entendu ses enseignements, vu ce que Jésus faisait, vu son amour, vu les miracles qu'il pratiquait. Mais cette femme-là est certaine d'être reçue par Jésus. Et elle veut se rendre à lui pour lui exprimer son amour, pour lui exprimer sa reconnaissance, probablement pour chercher cette relation intime avec Jésus. Simon invite Jésus chez lui pour un repas. Et là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Elle va au pied de Jésus. On a une acétate un petit peu plus loin qui nous montre un repas à l'époque. On appelait ça un symposium. Soit dit en passant, j'ai demandé à Mathieu Gigard de m'envoyer ses notes. Okay? Ceux qui étaient avec moi sur là, j'ai trouvé ça vraiment génial le temps qu'on a pris dans ce passage-là. Et je me suis dit, dimanche prochain, il faut qu'on aille dans ce texte-là. Donc, vous avez ici un symposium et probablement qu'ils étaient installés à peu près comme ça. Donc, les gens étaient couchés sur des divans. Et donc, leurs pieds étaient vers l'arrière et tout se passait au centre, autour de tables où des mets étaient apportés, des breuvages, tout ça, et les gens se servaient librement, conversaient, discutaient, échangeaient ensemble. Probablement que cette femme-là aurait voulu oindre la tête de Jésus de parfum, mais a décidé de s'arrêter à ses pieds, soit saisie par l'émotion ou très consciente de sa réputation alors qu'elle rentrait dans la maison d'un pharisien. D'accord? Ça vous donne un petit peu le contexte de ce qui est en train de se passer ici. À travers ce passage-là, on peut découvrir un petit peu plus qui est Jésus-Christ. Une des choses qu'on voit à travers le passage aussi et qui peut peut-être vous aider à comprendre, si vous n'êtes pas familier avec la foi chrétienne, vous aider à comprendre pourquoi il y a tellement de « Jesus freaks » sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il y a du monde comme ça qui se font baptiser puis qui savent que c'est contre-culturel, qui savent que ça va leur attirer des jugements qui vont peut-être être mal compris, ils vont être perçus comme des gens simples. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré à Jésus? Je pense que ce texte-là jette un peu de lumière là-dessus. Pourquoi cette femme était attirée à lui? D'accord? Maintenant, ce texte-là nous aide aussi à prendre conscience du regard qu'on dépose les uns sur les autres. Parce qu'on voit le regard de Simon sur cette femme. D'accord? Et donc, ça nous aide aussi à saisir le regard qu'on peut poser les uns sur les autres. Je pense que c'est un texte qui est pas mal utile. Dans le passage, on voit deux personnes. Une qui va croire en Jésus, qui croit en lui, qui cherche une relation à lui, qui vient à lui. Cette femme voit en lui celui qui peut la réconcilier avec Dieu, celui qui peut lui procurer la paix. Elle voit en lui le Sauveur. Les Juifs attendaient un sauveur, les prophéties annonçaient un sauveur. Cette femme voit en Jésus le sauveur et elle croit en lui. Et une autre personne importante dans le récit, c'est Simon. Simon ne croit pas en Jésus. Simon ne croit pas en Jésus et il ne croit pas qu'il a besoin de Jésus. Parce que Simon estime qu'il est quelqu'un de bien qui n'a pas besoin de Jésus-Christ. Simon travaille très fort depuis des années à avoir une vie droite, une vie irréprochable, une vie acceptable. Et par conséquent, en s'appuyant sur tout cela, lorsqu'il se regarde dans le miroir, il dit « Ben bonhomme, t'es pas mal mieux que ben du monde. » Et donc, il ne ressent aucun besoin d'aller vers Jésus. Il ne sent pas qu'il a besoin de se faire pardonner aucun péché. C'est Simon. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ce passage-là. Cette femme qui porte de la honte. Et je crois, en méditant sur le texte, en le regardant comme il faut, je crois que ça dépassait le fait que cette femme était prostituée. D'accord? Je pense qu'il y a plus que ça. Et je sais qu'on vit à une époque particulière où les mœurs évoluent, changent, se transforment très, très rapidement. Et même la vision de la prostitution change. Cette femme avait honte de vendre son corps, de porter atteinte à sa dignité humaine pour se financer. Mais il y avait plus que ça, je crois. Je pense que cette femme était comme tous les êtres humains et avait honte de certaines choses dans sa vie. Parce que si on veut être honnête les uns avec les autres, on a tous des moments où, je veux le dire à Québécois, on fait des vacheries, on est mesquin, on est poche, on est égoïste les uns avec les autres, on est dur, on pose des actes égoïstes où on n'aime pas les gens autour de nous qu'on devrait aimer. Et cette femme-là a intimement conscience de ses péchés. De ses péchés, du fait qu'elle n'est pas comme Jésus, elle n'est pas sainte comme lui, et elle porte ça en elle-même. Des fois, je jase avec des gens, et je l'ai entendu de certains artistes, des fois même dans des chansons, des gens qui vont dire « Moi, je ne regrette rien. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne regrette rien. » Personnellement, c'est mon opinion, ça me laisse bouche bée. J'ai beaucoup de difficultés à accepter cette idée qu'un être humain, à travers tout ce qu'il a pu faire dans ses relations humaines, n'est jamais en mesure de dire « J'ai vraiment été nul dans ce que j'ai répliqué à cette personne-là. J'ai vraiment été méchant et égoïste ici. Ici, là, j'ai pas été à la hauteur de l'intégrité que je voudrais avoir. Je ne regrette rien, ça me laisse toujours bouche bée. » Je respecte ce que les gens croient, comprenez? Mais je ne regrette rien. Ça a toujours sonné dans mon oreille, profondément égoïste et centré sur soi. Cette femme a des regrets, et je pense que la majorité d'entre nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on a des regrets. Il y a des moments, il y a des endroits, il y a des zones où on trouve qu'on est juste poche. Juste poche. Pas à la hauteur de ce qu'on aimerait être comme personne. Et cette femme-là, qui porte en plus de ça les stigmates dans sa société d'être une femme débauchée, une prostituée, va venir vers Jésus. Elle vient vers Jésus parce qu'elle porte en elle-même une honte profonde de toutes sortes de choses. Elle va venir vers lui parce qu'elle a besoin d'être aimée, aimée par Dieu. Elle croit que Dieu existe. Elle a besoin d'être aimée par Dieu. Elle a besoin de se savoir réconciliée avec Dieu. Et vous savez quoi? Lorsqu'on croit en Dieu, savoir que Dieu me pardonne, que je suis réconcilié avec lui, est une étape extrêmement importante avec le fait de me réconcilier avec moi-même. Lorsque je sais que celui qui connaît toutes mes pensées, connaît tous mes secrets, connaît tout ce que ma femme ne saura jamais, celui qui connaît tout de moi, m'a pardonné, m'accepte et m'aime, c'est une étape vraiment importante pour me pardonner moi-même. Être réconcilié avec moi-même, vivre la paix, vivre une paix profonde, c'est une étape vraiment importante pour y arriver. Cette femme-là vient vers Jésus parce qu'elle a besoin d'être aimée par Dieu, accueillie, pardonnée, savoir qu'elle peut être en paix avec Dieu, avec elle-même, savoir que Dieu l'aime. Et c'est vers Jésus qu'elle vient, elle ne va pas vers quelqu'un d'autre parce qu'elle a entendu Jésus enseigner, parce qu'elle a vu l'amour de cet homme-là pour les pécheurs, parce qu'elle sait que cet homme-là ne gobe pas toute la religiosité. Et elle a reconnu en Jésus quelqu'un qui vient de Dieu, quelqu'un auprès de qui on peut rencontrer Dieu, le Fils de Dieu. Elle vient vers lui parce qu'elle a cru en lui. Elle a vu sa sainteté, sa grâce et l'amour chez cet homme. Je fais juste une parenthèse. On vit un ère post-chrétien et plusieurs d'entre vous, vous n'avez même pas vu le vieux film qui durait 6 heures, je pense, Jésus de Nazareth. Vous n'avez jamais vu Jésus, d'accord? Et si vous êtes curieux et vous voulez essayer de comprendre c'est quoi cette gang de Jesus Freak-là, j'aimerais ça vous encourager à prendre tout simplement une Bible. On peut vous en donner en sortant, ça va nous faire plaisir. Un Nouveau Testament, vous en avez qui traîne chez vous, il y en a partout. Et simplement lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Commencez avec l'évangile de Luc, allez voir le passage que je vous partage ce matin. Allez voir, en lisant les évangiles, ce que cette femme a vu en Jésus. Qu'est-ce qu'elle a vu en lui pour qu'une simple rencontre avec lui et une parole de Jésus lui procure la paix de l'âme, une paix profonde qui lui permet de reconstruire sa vie, d'avancer, de repartir à zéro. Qu'est-ce qu'elle a vu en lui? Alors, je vous invite à le faire. Prenez une Bible, lisez l'évangile de Luc, lisez les 4 évangiles et posez-vous simplement la question. Qu'est-ce que cette femme-là a vu en Jésus? Une autre possibilité, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mentionné dans les témoignages, il y a 2 personnes, je pense, qui l'ont parlé de la foi chrétienne. Si vous désirez qu'on vous accompagne dans un cheminement, bien, on a un petit cours qu'on fait ici qui va repartir en janvier, la foi chrétienne expliquée. Et dans le fond, c'est ça qu'on fait. Vous lisez l'évangile de Marc, on vous donne quelques questions pour vous aider à rentrer tranquillement dans le texte, puis on partage ensemble. Et vous allez pouvoir répondre par vous-même à cette question. Qu'est-ce que cette femme a vu en Jésus? Cette femme avait besoin de trouver la paix. Elle avait besoin d'être réconciliée avec Dieu. Elle avait besoin de trouver la paix avec elle-même aussi. Et elle a cru en Jésus. Elle a cru que c'est en Jésus qu'elle allait rencontrer Dieu. Elle a cru que Jésus était le Sauveur. Et donc, elle se rend jusqu'à lui. Puis elle vient l'adorer. Dans un acte d'humilité qui est... C'est loin, là. D'accord? À l'époque, les gens se promenaient en gougoune. Ils enlevaient leur gougoune lorsqu'on arrivait à la maison. Tu avais les pieds sales. On souhaitait la bienvenue aux gens, pas seulement en leur donnant la main, mais en leur donnant un baiser. Puis, si tu avais un serviteur venait laver les pieds de tes invités. Et cette femme-là, qui probablement voulait oindre de parfum la tête de Jésus comme un acte de reconnaissance, d'adoration, soit parce qu'elle sent tout de suite les regards des gens lorsqu'elle rentre dans la maison, soit parce qu'elle est saisie d'émotion, elle va s'arrêter aux pieds. Puis elle va commencer à laver les pieds de Jésus avec ses larmes et avec ses cheveux. Et comme Mathieu le partageait à la conférence la semaine dernière, Mathieu Gigant, il y a même quelque chose d'extrêmement scandaleux dans ce qu'elle fait lorsqu'elle détache ses cheveux. D'accord? On est dans une culture vraiment autre et elle est en train de poser un acte qu'une femme faisait lorsqu'elle entrait dans la chambre à coucher avec son mari. Elle est en train de dévoiler sa coiffure, elle détache ses cheveux et elle va essuyer les pieds de Jésus, va jusqu'à embrasser les pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient l'adorer. Elle vient l'adorer parce qu'elle croit, elle est convaincue qu'elle trouve en Jésus l'amour, le pardon et la grâce. Et elle vient l'adorer. Et Jésus va faire quelque chose d'incroyable. Il va dire à cette femme-là, « Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » Et cette femme va partir de cette simple rencontre avec Jésus, le cœur en paix, convaincue que Dieu lui a fait grâce et que Dieu lui a pardonné ses péchés. Il lui dit, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Quand vous vous posez la question, pourquoi est-ce que les gens croient en Jésus, la première réponse, c'est parce qu'on veut vivre la paix. J'ai cru en Jésus à 19 ans, ça fait bientôt 22 ans. Et il y avait des choses dans ma vie qui me faisaient honte. Et j'étais convaincu que Dieu existait. Je savais que si Dieu existait, il n'était pas comme moi. Il était saint, droit, juste, amour, mais sainteté aussi. Et il y avait des choses dans ma vie que j'aurais voulu pouvoir juste comme effacer. Et je ne pouvais pas les effacer. Et je savais que ces choses que j'avais faites dans le passé risquaient de revenir dans l'avenir parce que je voyais bien que ça venait de mon cœur. Donc, il y avait toute cette dynamique-là aussi de sentir que j'étais un être qui pouvait faire plein de belles choses, mais en même temps être des fois tellement égoïste, crasse, et je portais ça en moi. Et je suis venu à Jésus, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ parce que j'ai cru que lui pouvait me pardonner mes péchés. Lui pouvait me faire grâce. Je suis venu à cette conviction-là en lisant les Évangiles, en découvrant qui est Jésus. Cette femme vient à lui et lorsqu'elle ressort de cette maison, Jésus lui dit, « Va en paix maintenant. » Tout ce qui a pu te faire honte dans ton histoire est pardonné. Tu repars à zéro. Maintenant, remarquez bien quelque chose. Jésus ne dira jamais ça à Simon le pharisien dans ce récit. Jésus ne va pas dire à Simon, « Ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, va en paix. » Jésus ne le dira pas à Simon pour deux raisons. Premièrement, Simon ne croyait pas qu'il avait besoin de se faire pardonner quoi que ce soit. Simon ne se voyait pas vraiment comme un pécheur. Il se voyait comme quelqu'un de bien qui n'a pas besoin de se faire pardonner quoi que ce soit. Et le regard qu'il pose sur cette femme-là en dit long. Il regarde cette femme-là avec condescendance et il dit, « Elle est pécheresse, mais moi, regarde, come on, je n'ai pas besoin de me faire pardonner quoi que ce soit. » Et pour cette simple raison-là, Dieu ne pardonne pas et Jésus ne dit pas à Simon, tes péchés sont pardonnés. Il ne peut pas lui dire, il n'y a pas de péché à se faire pardonner. C'est un saint. Il n'y a pas besoin de Jésus. Il n'y a pas besoin de se faire pardonner quoi que ce soit. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il ne croit pas en Jésus. Pour Simon, Jésus, c'est un personnage étrange qui dit des paroles intéressantes, mais qui est spécial. Et il n'est certainement pas le Fils de Dieu. Il n'est certainement pas le Sauveur des hommes. Il n'est certainement pas Dieu fait homme. Il ne croit pas en Jésus. Et pour ces deux raisons-là, Jésus ne dira jamais à Simon, « Tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Va en paix, Simon, maintenant. » Parce que Simon n'a pas besoin de la paix que Dieu peut donner. Et ça, c'est sa conviction. Maintenant, je vais terminer avec quelque chose. Je l'ai dit au début de ce que je voulais vous partager. Souvent, on voit les chrétiens comme des gens religieux. Tout à l'heure, je parlais des grenouilles de bénitier. On voit les chrétiens comme des gens religieux qui se voient au-dessus des autres, qui se voient comme des personnes supérieures aux autres. Et si vous êtes proche, vous êtes des amis de chrétiens, vous faites partie de la famille de chrétiens, pardonnez-nous parce que des fois, c'est vrai qu'on est assez morons pour faire ça puis regarder les gens comme ça. D'accord? Mais la vérité, c'est que tous ceux et celles qui sont chrétiens ici s'identifient beaucoup plus avec la femme pécheresse qu'avec Simon. D'accord? Moi, lorsque je lis ce récit-là, je me vois exactement comme cette femme pécheresse qui avait besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et remarquez bien l'attitude de cette femme, elle ne se préoccupe pas du tout de Simon. Vous comprenez, quand Jésus commence à reprendre Simon, le texte ne nous permet pas d'imaginer la femme en train de dire, « Hein, Simon? Hein, le religieux? Hein, tu vois-tu? Non, mais regarde, c'est mon attitude que Jésus endosse. » Non, ce n'est pas important pour elle ce qui se passe entre Simon et Jésus. Ce qui est important, c'est la grâce que Jésus veut déposer sur elle. Ce qui la préoccupe, c'est son péché, sa honte à elle. Elle vient à Jésus pour recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Un point, c'est tout. Alors, si vous avez des gens dans votre famille qui sont chrétiens et que des fois, notre style de vie peut vous donner l'impression qu'on est là pour juger les gens puis dire, regarde, ça, c'est pas correct, ça, non. Mais savez-vous quoi? Moi, je suis un ami de Jésus, puis il y a quelque chose que j'ai compris il y a 20 ans. Jésus est l'ami des pécheurs. Fait que s'il est mon ami, c'est qu'à quelque part, je suis un sirop de pécheur. Et c'est comme ça que je le vois. Cette femme-là est venue vers Jésus parce qu'elle avait vu en lui, plus qu'un prophète, plus qu'un homme sage, elle avait vu en lui le Fils de Dieu qui pouvait lui accorder le pardon de ses péchés. Elle avait vu en elle-même une personne qui avait besoin de recevoir une paix que seul Dieu peut donner. Elle est venue vers lui pour recevoir cette grâce. Et elle repart cette journée-là avec la grâce de Dieu sur elle. Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé, t'as cru en moi, tes péchés sont pardonnés, va en paix maintenant. » Ma prière est toute simple. Peut-être que vous êtes comme Simon, et vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin de Jésus. Peut-être que vous êtes comme cette femme pécheresse. Vous avez intimement, profondément conscience que vous avez besoin de Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes comme un des invités, parce qu'il y avait d'autres mondes, hein, qui étaient là puis qui assistaient à tout ça, qui regardaient toute cette discussion-là, qui s'interrogeaient, mais qui est Jésus? Ma prière, mon souhait pour vous, c'est que vous ouvriez les Saintes Écritures, vous ouvrez les Évangiles, et vous allez voir ce que cette femme a trouvé en Jésus pour se rendre à lui et repartir avec cette paix et avec cette grâce. Et personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce que des dizaines et des centaines de chrétiens que j'ai côtoyés ont expérimenté. Ils ont trouvé en Jésus-Christ une grâce et une paix, un pardon, qui me permet aujourd'hui d'avancer à tous les jours de ma vie, en sachant que même s'il va y avoir plein d'épreuves dans ma vie, même s'il va y avoir des moments très, très difficiles dans ma vie, mon Dieu veille sur moi, prend soin de moi, et j'ai sa paix qui est avec moi, sa grâce qui est avec moi. Merci d'avoir écouté ce partage-là. Merci d'être avec nous aussi ce matin.
Juste avant de passer au moment qu'on attend et que ceux qui vont se faire baptiser attendent, on va prendre un dernier chant, un autre chant en fait, et je vais vous inviter à vous lever pour qu'on puisse le chanter. Le chant va très bien avec le passage qu'on a entendu ce matin et je vous invite à chanter avec nous.
qu'apporter, que puis-je offrir comme une offrande au roi? Je veux réjouir ton cœur. Oh, que puis-je offrir et qu'apporter, que puis-je chanter comme une offrande au roi? Chanter comme une offrande au roi. Je veux réjouir ton cœur. Je veux offrir et qu'apporter, que puis-je chanter comme une offrande au roi. Verse l'huile d'amour comme une adoration. Je dois tout abandonner, tout ce que je suis. Oh, reçois le sacrifice qui vient d'un cœur contrit. Oh, reçois le sacrifice qui vient d'un cœur contrit. Oh, reçois le sacrifice qui vient d'un cœur contrit.
Faites-vous asseoir.
On va commencer par Jesse. Ce que ces gens vont faire ce matin, le baptême, c'est un engagement, mais c'est aussi c'est un acte d'obéissance. Ils veulent obéir à Christ. Christ, quand il a dit, allez par le monde, faites des disciples et baptisez-les. Et c'est ce qu'on fait ce matin. On veut les baptiser parce qu'ils sont maintenant des disciples. OK, Jesse? Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton sauveur personnel?
Oui.
Et maintenant, désires-tu le suivre à chaque jour?
Oui.
Alors, sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Audrey, c'est à ton tour. Audrey, excusez-moi. Audrey, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu l'as accepté comme étant ton sauveur personnel?
Oui.
Et maintenant, désires-tu le suivre à chaque jour?
Oui.
Alors, sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autour de Maxime. Oh! Ah oui.
Okay. 30 secondes.
OK. On me demande de te laisser 30 secondes dans l'eau, c'est correct? Maxime, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Et crois-tu aussi, est-ce que tu l'as accepté comme étant ton sauveur personnel?
Oui.
Et désires-tu le suivre à chaque jour de ta vie?
Oui.
Alors, c'est sur ta propre profession de foi que je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est bon, c'est une belle joie de voir ça, de voir des gens qui ont pris la décision de suivre Jésus. Certainement, Jésus est devenu le roi de leur vie. Et j'espère que si ce n'est pas le cas pour vous, qu'un jour il va le devenir, parce que c'est la plus belle chose qui peut pas nous arriver. On va le chanter, on va louer notre roi, on va se lever ensemble et chanter ensemble que Christ est notre roi.